Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, l'ostéogenèse imparfaite, ou maladie des os de verre. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Valérie Cormier-Der. Professeur Cormier-Der, bonjour.
Bonjour.
Professeur Cormier-Der, vous êtes généticienne clinicienne, professeur des universités à l'Université Paris-Descartes et praticien hospitalier, chef du service de génétique clinique de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Vous coordonnez également le centre de référence des maladies osseuses constitutionnelles de la filière OSCAR, ainsi qu'un groupe de recherche INSERM à l'Institut Imagine, l'Institut des maladies génétiques à Paris également. Alors, professeur Cormier-Der, ma première question est très simple. Qu'est-ce que l'ostéogenèse imparfaite ou maladie des os de verre ?
Alors, l'ostéogenèse imparfaite est un groupe très hétérogène de maladies génétiques de sévérité variable, caractérisées par une fragilité osseuse, une faible masse osseuse et une tendance aux fractures en l'absence de traumatisme évident. C'est une maladie rare, mais qui est relativement fréquente dans le cadre des maladies osseuses constitutionnelles, et c'est l'un des motifs de consultation le plus fréquent dans le centre de référence maladies osseuses constitutionnelles, que ce soit dans le cadre du diagnostic, du suivi et de la prise en charge ou du conseil génétique. Sa prévalence est estimé à entre 1 pour 10 000 et 1 pour 20 000, avec environ 50 naissances par an.
Et quel est le mécanisme de survenue de l'ostéogenèse imparfaite ?
L'ostéogenèse imparfaite, en fait, se caractérise par une fragilité osseuse excessive, en rapport le plus souvent avec une anomalie du collagène de type 1, qui est une protéine de la matrice extracellulaire synthétisée par les ostéoblastes et présent majoritairement dans l'os. Ce collagène de type 1 est constitué par une triple hélice composée de deux chaînes alpha 1 et une chaîne alpha 2. Il est présent également dans la peau, les ligaments et la sclérotique de l'œil, ainsi que dans la dentine, ce qui explique également la possibilité de manifestations extrasquelettiques dans l'ostéogenèse imparfaite. Chez environ 85 à 90% des patients, la mutation en cause dans l'ostéogenèse imparfaite porte sur un des deux gènes qui code pour le collagène de type 1, COL1A1 ou COL1A2, et la gravité de la maladie dépend de la localisation de la mutation sur le gène. Le mode de transmission de ces formes est autosomique dominant, c'est-à-dire que lorsqu'un parent est porteur d'une mutation dans un gène de collagène, il a un risque de 50% de transmission à sa descendance. Il peut s'agir d'un événement accidentel ou de novo survenu chez le cas index. Aucun des deux parents n'est porteur de variation, mais ce cas index aura alors un risque ensuite de 50% de transmission à sa descendance. Le fait tout très nouveau et récent de ces 10 dernières années et l'identification d'autres gènes à l'origine de l'ostéogenèse imparfaite, d'autres gènes que le collagène de type 1, avec aujourd'hui une très grande hétérogénéité génétique et plus de 26 gènes différents identifiés à l'origine de l'ostéogenèse imparfaite. Ces gènes différents du collagène de type 1 codent pour des protéines qui régulent la formation des fibres de collagène, c'est ce qu'on appelle des modifications post-traductionnelles, mais également des protéines impliquées dans la minéralisation ou dans le développement et la formation osseuse, avec des modes de transmission qui peuvent être autosomiques dominants, comme pour le collagène de type 1. C'est par exemple le cas de IFITM5, qui est responsable d'une forme avec cale hypertrophique, mais également de formes dites autosomiques récessives, avec un risque de récurrence à chaque grossesse de 25%, ou bien encore des formes récessives liées à l'X, et ces bases moléculaires sont extrêmement importantes pour l'orientation de la prise en charge, mais également pour le conseil génétique.
Et pour les patients concernés, professeur Cormier-Der, quels sont les principaux symptômes rencontrés ?
Alors, comme je l'ai dit au début, il n'existe pas une ostéogenèse imparfaite, mais différentes formes d'ostéogenèse imparfaite. Donc, il existe une très grande variabilité de sévérité, allant de formes très sévères qui vont être diagnostiquées très précocement pendant la grossesse, avec des formes extrêmement modérées qui peuvent passer inaperçues. Donc l'âge au diagnostic dépend de la sévérité de la maladie. Les symptômes les plus fréquents sont fractures, répétée, après un traumatisme minime, voire sans traumatisme évident, qui intéresse les os longs, notamment les membres inférieurs et les fémurs, par exemple, mais également les os plats, en particulier les vertèbres. Il y a ensuite déformation en rapport avec la malléabilité de l'os, mais également scoliose avec détachement vertébraux. Il peut également exister une déformation thoracique qui peut entraîner une réduction de la capacité respiratoire. Les autres signes possibles sont douleur, hyperlaxité et puis des signes inconstants mais qui sont très évocateurs du diagnostic avec en particulier une couleur bleutée des sclérotiques, des anomalies des dents à type de dentinogenèse imparfaite, un décalage statural possible progressif, une surdité en particulièrement fréquente à l'âge adulte, une peau fine, des hématomes faciles et plus rarement chez l'adulte des atteintes cardiovasculaires. Dans les formes très sévères, il peut exister des atteintes respiratoires et des difficultés de déambulation. Et en anténatal, pendant la grossesse, les signes d'appel sont fracture, déformabilité du crâne et incurvation fémorale. Cette variabilité clinique a conduit à proposer des classifications et aujourd'hui, ces classifications sont basées sur la sévérité de la maladie et on reconnaît 5 formes cliniques principales. Le type 2 qui est dit létal, le type 3 qui est dit sévère, les types 4 et 5 qui sont dits modérés et le type 1 qui est dit léger.
Et lorsqu'un médecin est confronté à ce type de symptômes qui sont variables, comme vous venez de l'expliquer, comment diagnostiquer l'ostéogenèse imparfaite?
Alors le diagnostic va d'abord reposer sur un faisceau d'arguments qui comprend l'histoire familiale, la présence des signes osseux que je viens de décrire, donc fractures répétées en l'absence de trauma, déformation, de signes extra-osseux évocateurs, sclérotique bleue, dentinogenèse imparfaite, surdité. Après, les radiographies de squelette qui vont révéler une déminéralisation osseuse et la radio du crâne qui montre la présence d'ovormia. L'ostéodensitométrie osseuse faite à un âge où elle est interprétable qui confirme la faible masse osseuse. Et puis, les études génétiques qui sont aujourd'hui systématiques et qui vont permettre d'orienter la prise en charge car il existe des corrélations génotypes-phénotypes et également qui vont permettre un conseil génétique exact.
Et pour vous, clinicien, quels sont les diagnostics différentiels à écarter?
Alors, ils varient en fonction de l'âge. En post-natal, le bilan phosphocalcique est important pour ces diagnostics différentiels, couplés à l'imagerie et bien évidemment aux analyses génétiques qui permettront d'affirmer un cadre diagnostique. Et donc, les grands diagnostics différentiels sont les autres formes de fragilité osseuse. Alors, on peut citer l'hypophosphatasie, par exemple, mais également des formes d'ostéoporose primaire ou secondaire avec un chevauchement avec certaines formes modérées d'ostéogenèse imparfaite. En anténatal, le signe d'appel incurvation fémorale évoque en premier lieu une ostéogenèse imparfaite par argument de fréquence. Mais les incurvations fémorales peuvent se voir dans d'autres dysplasies squelettiques, telles que par exemple le syndrome de Stuvidemann ou des formes de dysplasie métaphysaire telles que le cartilagère hypoplasia. Et il y a une réelle difficulté à affirmer en diagnostic en anténatal sur une incurvation fémorale bilatérale. Et seules les études génétiques permettent de confirmer et d'affirmer un cadre nosologique. Enfin, il est important de parler de la maltraitance qui se caractérise par des lésions squelettiques distinctes de celles de l'ostéogenèse imparfaite, mais il nous arrive d'être sollicités dans le cadre de suspicions de maltraitance dans des situations complexes qui sont alors discutées en stade d'expertise dédiée.
Et pour conclure notre entretien, professeur Cormier-Der, pour un médecin de première ligne, qu'il soit pédiatre ou médecin de famille, quels sont les signes d'alerte qui doivent faire penser à une ostéogenèse imparfaite et adresser les patients à un centre expert?
Alors, c'est d'abord fracture répétée sans traumatisme ou après un traumatisme minime, tassement vertébraux et ostéoporose et douleur, et puis déformation dont on a parlé avec les déformations thoraciques et les scolioses. Après, d'autres signes sont vraiment évocateurs de l'ostéogenèse imparfaite, les sclérotiques bleues, la dentinogenèse imparfaite et la surdité, avec également les hyperlaxités. Et face à l'un de ces signes, il est tout à fait légitime d'adresser le patient et sa famille à un centre expert du réseau maladie osseuse constitutionnelle pour une consultation spécifique dédiée à ce cadre diagnostique.
Eh bien, merci infiniment, professeur Cormier-Der, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'ostéogenèse imparfaite ou maladie des os de verre. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.